merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Ça roule très très mal. Là, je sors de Roissy. J'ai mis 1h45. C'est une horreur parce que moi, je suis chauffeur VTC et je peux vous dire, je vais mettre 30 minutes pour 3 km.
Plus de 600 km de bouchons cumulés ce matin. Les trains et les métros roulent mal et il faut bien retourner, Florence, travailler.
Et nouvelle journée de mobilisation demain et des réunions gouvernementales en série avant l'annonce de la réforme mercredi par Édouard Philippe. Jean-Luc Mélenchon condamné à 3 mois de prison avec sursis après la perquisition houleuse au siège de la France Insoumise. Il est fort mécontent.
Tout ça, c'est du n'importe quoi. La justice, la police, tout ça a été instrumentalisé par le pouvoir politique dans des conditions telles que tout le monde se couvre de ridicule.
Un rapport de la Cour des comptes étrille l'ordre des médecins, notamment pour des sanctions trop légères. Faux, répond l'instance médicale.
Je conteste avec force le fait que la Cour des comptes puisse conclure que nous ne sommes pas actifs, alors que nous condamnons des médecins, alors que nous écoutons les victimes.
Et puis la Russie sera peut-être interdite de Jeux Olympiques en 2020 et 2022. C'est en tout cas une recommandation de l'Agence mondiale antidopage. La météo avec vous, Céline Dacosta, un ciel encore très agité cet après-midi.
Oui, surtout sur l'est du pays où le gros de la perturbation de ce matin s'est décalé. Pour l'ouest, encore de bonnes rafales de vent, mais aussi le retour de quelques éclaircies, le tout sous des températures comprises entre 7 et 13 degrés.
Merci Céline, on vous retrouve à midi et demi, météo complète sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le premier jour de vrai test depuis le début des grèves, Florence, contre la réforme des retraites.
Et oui, après le télétravail ou les RTT en fin de semaine dernière, il a bien fallu retourner au bureau ce matin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été simple. Il y avait plus de 600 km de bouchons cumulés en Île-de-France, le double d'un matin habituel. François Geffrier, vous avez fait comme tout le monde. Vous avez galéré ce matin sur la moto Europe 1. Alors là, à la mi-journée, on pourrait croire que ça roule mieux. C'est vrai ou pas ?
Alors, ça reste difficile. Les temps de parcours sont tout de même fortement rallongés par rapport à d'habitude. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, ce sont les usagers qui connaissent cette autoroute A1, Porte de la Chapelle, là où je me trouve.
Ça roule très très mal. Là, je sors de Roissy, j'ai mis 1h45. Vraiment, c'est infernal. C'est une horreur parce que moi, je suis chauffeur VTC et je peux vous dire, là, je me tape, là, vous voyez, j'ai 3 km, je vais mettre 30 minutes pour 3 km.
Beaucoup de bouchons, énormément de bouchons. C'est multiplié par 5-6. 3h30 entre Roissy et le 17e. On s'attendait à que les gens prennent leur dispositif et tout, mais finalement, tout le monde a pris sa voiture pour aller travailler.
Les gens sont énervés. Très énervé. Des boîtes dans tous les sens, d'habitude c'est moins flagrant qu'aujourd'hui. C'est plus dangereux que d'habitude.
Il y a effectivement de la nervosité, des accélérations un peu trop fortes quand le trafic se débloque. Tout à l'heure j'ai vu un pare-choc remplir sa mission dans un craquement sinistre. Alors pour autant il y a du mieux avec Jimmy Nicolas sur la moto Europe 1 depuis 5h du matin. Nous parcourons les abords de la capitale et je peux vous dire que ceux qui, pour éviter le pic de bouchon, ont choisi la grasse matinée plutôt que se lever très tôt, ils ont du soleil en prime. Mais attention, la chaussée reste mouillée avec beaucoup de vent et on a toujours en Île-de-France 148 km de bouchons cumulés à l'heure où nous parlons.
Merci beaucoup pour ce recensement. François Geffrier, en direct de la Porte de la Chapelle pour Europe 1.
Et les transports roulent toujours très mal, vous le savez. Un Transilien et un train de banlieue sur 5, 3 TER sur 10, 9 lignes de métro fermées à Paris. Et en plus, une partie des dépôts de bus ont été bloqués ce matin, ce qui a encore réduit la circulation. Heureusement, Florence, les blocages sont à présent levés.
Alors en tout cas, les usagers, ils sont très bien informés du trafic. Ils peuvent prendre leur disposition grâce notamment à leur téléphone portable. C'est ce que vous avez pu constater à Lille pour Europe 1, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement, il faut dire que la direction de la SNCF avait annoncé la couleur en demandant dès hier à ses clients de reporter leur voyage puisque sur le réseau régional, il n'y a que 10% des TER qui circulent aujourd'hui. Alors quelques chanceux, bien renseignés grâce à leur application, ont pu attraper un train pour Douai, Aulnoye-Aymeri ou Béthune. Mais pour les autres, c'est une nouvelle semaine galère qui s'annonce, comme pour Alex, qui n'a pas pu se rendre à son travail à Hénin-Beaumont.
Là, je viens de prévenir mon employeur et je vais essayer de trouver une solution pour les prochains jours, autre que le train, voire du coup voiturage ou quelque chose comme ça. Bon, les routes sont blindées, donc forcément, ça risque de pas être facile non plus là-dessus. Le seul problème, c'est que je vais devoir juste rattraper mes heures. Il faut juste que je voie avec mon patron On verra ça plus tard.
Alors pour l'instant, ces usagers serrent les dents, mais beaucoup de ceux que j'ai rencontrés ce matin se demandent, comme Grégory, quelle sera l'évolution de la situation après la journée de manifestation de demain et les annonces d'Edouard Philippe mercredi.
Il faut faire avec, on n'a pas le choix. J'espère en tout cas que j'aurai des annonces assez rapides. Et puis surtout que tout ça se débloque à partir de mercredi, voire même jeudi. J'espère que tout ça va s'accélérer parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir aller travailler.
Et notez que ce matin, on a compté jusqu'à 100 km de bouchons sur les grands axes aux abords de la métropole lilloise. Une circulation qui ne s'est fluidifié qu'en milieu de matinée.
Merci Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1.
La suite de votre journal avec Florence Cohen et Raphaël Duchemin.
On va vers une nouvelle journée de grève et de mobilisation demain, Florence, dans les transports et chez les enseignants. Et la CGT réfléchit à une troisième journée d'action, ce serait jeudi.
Et pendant ce temps, les assemblées générales se poursuivent, notamment bien sûr chez les cheminots. Aurélien Fleureau, vous êtes à la gare Saint-Lazare à Paris pour Europe 1 et sans surprise, le mouvement est reconduit.
Oui, ici c'est unanime, sans nuance, le mouvement est reconduit jusqu'à demain mardi. Et pour la petite centaine de cheminots réunis ce matin, il n'y a aucune raison pour l'instant que cela soit différent dans les jours qui viennent. Et Christophe, conducteur de train, ne se fait pas beaucoup d'illusions quant aux annonces du gouvernement.
Nous concernant, le mouvement s'arrêtera quand le gouvernement annoncera un retrait de sa réforme. Donc ce n'est pas les annonces d'aménagement autour de sa réforme qui pourront nous convenir. Donc de toute façon, pour nous, ça continuera. On veut un système qui soit juste. Aujourd'hui, ce qu'il est en train d'annoncer, c'est en particulier pour les cheminots, mais pour la plupart des régies spéciaux, c'est une baisse conséquente des revenus une fois arrivés en retraite. Et c'est remettre en cause la totalité de notre pacte social qu'on avait précédemment.
Donc à la SNCF, mouvement reconduit pour 24 heures. Du côté de la RATP, en revanche, eh bien là, je peux vous dire que ce sera jusqu'à jeudi inclus. C'est en tout cas la décision qui est sortie ce matin de plusieurs AG pour les lignes 2, 6 et 9 du métro, par exemple, ou encore pour la ligne A du RER. Donc grève jusqu'à jeudi, soit après les annonces d'Edouard Philippe. C'est pour montrer notre détermination, m'explique un agent de la RATP. Et tous, en tout cas, se préparent pour la nouvelle manifestation prévue demain.
Les précisions d'Aurélien Fleureau en direct de la gare Saint-Lazare pour Europe 1. Alors du côté du gouvernement, c'est la veillée d'armes avant l'annonce des grandes lignes de la réforme après-demain par Édouard Philippe. Le haut commissaire aux retraites doit présenter cet après-midi les conclusions de ses concertations avec les partenaires sociaux.
Jean-Paul Delevoye qui est un peu dans la tourmente. Selon le journal Le Parisien, il aurait oublié de déclarer son rôle d'administrateur d'un institut sur les assurances. Une déclaration pourtant obligatoire dans le cadre de la transparence de la vie publique. Résultat, eh bien, il vient d'annoncer qu'il démissionne de ses fonctions à l'IFPAS.
Et après les réunions de ce week-end, le président et le Premier ministre recevront demain soir les ministres concernés par la réforme des retraites. Le gouvernement veut une réforme juste. La CGT compte aller jusqu'au retrait de la dite réforme. Pour les syndicats, cette semaine est une semaine décisive. Mais Olivier Samin, pas toujours pour les mêmes raisons.
Oui, il y a ceux qui s'inscrivent clairement dans le rapport de force avec l'exécutif en réclamant le retrait pur et simple de la réforme, la CGT mais aussi FO, Solidaire, la FSU. Le défi pour eux, c'est de faire aussi bien demain et même mieux que jeudi dernier. Alors pas simple, le 5 décembre était dans toutes les têtes depuis deux mois, il y avait du temps pour préparer. C'est pas le cas pour la journée de demain qui a été décidée à la veille du week-end. Derrière ces contingences, c'est la capacité de ces syndicats à tenir leur nouveau rang qui est en jeu. Le mouvement des Gilets jaunes les avait ringardisés. Aujourd'hui, avec le succès des manifs de jeudi dernier, ils sont revigorés, mais il faut que ça tienne sur la durée.
Et parallèlement, il y a ceux qui ont quand même fait le choix de rester dans la concertation, Olivier.
Oui, la CFDT, la CFTC, l'UNSA, le système universel par points, ils en veulent bien, mais les ratés du gouvernement les ont rendus ultra méfiants. Mercredi, c'est quitte ou double, disent-ils. Ou bien Édouard Philippe remet la réforme sur les bons rails en apportant des garanties sur la transition, les régimes spéciaux, les profs, la pénibilité, et en renonçant à toute mesure d'âge, ou bien le gouvernement persiste dans ses erreurs. Et alors là, disent ces syndicats, nous ne répondrons plus de rien.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Notez que la Commission européenne juge la réforme des retraites nécessaire. C'est Thierry Breton, nouveau commissaire français à Bruxelles, qui l'a dit ce matin au micro Europe 1 de Sonia Mabrouk.
Il est midi 8. Restez avec nous dans un instant. Jean-Luc Mélenchon condamné après la perquisition mouvementée au siège de la France insoumise. C'était l'année dernière. A tout de suite sur Europe 1.
Il est midi 10, la suite de votre journal avec Florence Cohen et Raphaël Duchemin.
Jean-Luc Mélenchon condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny un peu plus d'un an, Florence, après la perquisition houleuse au siège de la France Insoumise.
Oui, vous vous en souvenez sans doute, hein, Jean-Luc Mélenchon avait bousculé un représentant du parquet et un policier. Chloé Triomphe, vous avez assisté pour Europe 1 au prononcé de la décision. Tous les prévenus étaient là, ils ont presque tous été condamnés à des peines diverses. Jean-Luc Mélenchon écope, lui, de 3 mois de prison avec sursis.
Oui, c'est le seul des 6 prévenus qui a écopé d'une peine de prison et à l'énoncé laconique du jugement sans autre détail par le président sur les motivations. Jean-Luc Mélenchon grommelle, ironique, il aurait mieux valu 3 mois ferme. À la sortie devant les micros, le leader de la France Insoumise a repris un ton plus vigoureux.
Je dénonce cette instrumentalisation politique de la justice, l'impunité totale de policiers menaçants. 3 mois avec sursis, c'est à peu près, peut-être que si j'avais volé une bicyclette, c'est ce qui me serait arrivé. Tout ça, c'est du n'importe quoi. La justice, la police, tout ça a été instrumentalisé par le pouvoir politique dans des conditions telles que tout le monde se couvre de ridicule. Franchement, je pense que qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, quand même c'est possible, hein, je l'admets. Mais 7 jours d'arrêt de maladie pour quelqu'un à qui j'ai crié « ma personne est sacrée », plus 3000 euros... Franchement, les gens vont se précipiter pour venir se faire engueuler par moi. Hein.
On ne sait pas à cette heure-ci si Jean-Luc Mélenchon et ses proches condamnés, sauf Alexis Corbière relaxé, vont faire appel. Jean-Luc Mélenchon a déclaré que sa priorité du moment restait le combat contre le gouvernement sur les retraites.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Il y a des dérives préoccupantes au sein du Conseil de l'Ordre des médecins. C'est la conclusion implacable d'un rapport publié aujourd'hui par la Cour des comptes.
Ève Roger, qu'est-ce qu'il dit exactement ce rapport des sages de la Cour des comptes ?
Eh bien, les flèches partent tous azimuts selon la Cour. L'Ordre n'est pas assez représentatif, trop masculin, trop vieux, pas à l'image de la féminisation de la profession. Il a une gestion approximative, voire laxiste, à la fois des locaux, des indemnités, mais si je le rappelle, l'ordre vit de la cotisation de ses membres et pas d'argent public. Et puis surtout, il n'est pas efficace dans ses missions qui sont d'abord d'assurer le suivi de la formation continue des médecins, mais aussi de veiller au respect des règles déontologiques. Il n'accorde pas assez d'attention, par exemple, au risque de conflit d'intérêts de certains avec l'industrie pharmaceutique. Et surtout, il n'est pas assez sévère avec ses membres poursuivis pour viol ou abus sexuel. Le patron de l'ordre ce matin, Patrick Bouet, reconnaît ses erreurs, mais c'était avant moi, dit-il, depuis son arrivée en 2013. Il affirme que l'ordre est en première ligne dans la lutte contre les abus sexuels.
Nous avons mené de façon résolue une action beaucoup plus pugnace que cela a pu être le cas dans le passé, pour des raisons très simples qui sont celles de l'ensemble de la société, c'est-à-dire d'une prise de conscience globale de ce qu'il fallait agir et agir le plus précocement possible. Je conteste avec force le fait que la Cour des comptes puisse conclure que nous ne sommes pas actifs, alors que nous sommes actifs, alors que nous condamnons des médecins, alors que nous écoutons les victimes et les victimes potentielles, et alors que nous avons donné un certain nombre d'éléments dans ce domaine.
Et maintenant, eh bien, l'ordre va continuer à se corriger, dit-il, sur la base des remarques de la Cour des comptes. Circuler, il n'y a plus rien à voir.
Merci Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Il est midi 13, la suite de votre journal avec Raphaël Duchemin et Florence Cohen.
Willy Bardon est réveillé et son pronostic vital n'est plus engagé. C'est l'annonce du procureur d'Amiens ce matin. Willy Bardon avait ingéré un pesticide juste après avoir été condamné à 30 ans de réclusion pour l'enlèvement suivi de la mort d'Élodie Kulik en 2002.
C'est un rendez-vous crucial pour tenter de mettre un terme au seul conflit armé encore actif en Europe, la situation dans l'est de l'Ukraine.
La guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes a fait plus de 13 000 morts en 5 ans. Aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sont reçus en grande pompe par Emmanuel Macron et Angela Merkel à Paris. L'objectif, Adrien Beck, c'est de relancer les pourparlers de paix.
Oui, faire que Moscou et Kiev se parlent enfin, c'est une première étape. Vladimir Poutine et son nouvel homologue Volodymyr Zelensky seront donc autour de la table aux côtés d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel qui seront, eux, dans le rôle de médiateurs. Une rencontre bilatérale entre le russe et l'ukrainien est même à l'ordre du jour, même si, sur le terrain, les combats continuent. 40 000 hommes en armes sont toujours postés de part et d'autre de la frontière russo-ukrainienne. Alors faut-il attendre des résultats concrets après ce sommet d'aujourd'hui ? Eh bien, pas vraiment. Il s'agit plutôt d'acter les fragiles progrès sur le terrain. L'échange de prisonniers, par exemple. Tout cela avec en ligne de mire l'organisation d'élections dans l'est de l'Ukraine. Et ce sera aussi, au niveau français, l'occasion de tester si Emmanuel Macron, qui ne cesse d'appeler un rapprochement avec Moscou, sans naïveté, précise-t-il toujours, eh bien, si Emmanuel Macron obtient quelque chose de Vladimir Poutine.
Merci. Précision d'Adrien Beck. du service politique d'Europe 1.
Ils sont 11 proches de djihadistes français. Ils viennent d'être renvoyés chez nous par la Turquie. Il s'agit de 4 épouses et de leurs 7 enfants. Les femmes seront interpellées dès leur arrivée sur le sol français, Florence, et les enfants seront, eux, pris en charge par l'aide sociale.
Alors, ces rapatriements sont normaux. Hein. Ils sont prévus par un accord entre Paris et Ankara pour les djihadistes qui quittent la Syrie par la Turquie. Justement, depuis l'offensive turque dans le nord de la Syrie, les autorités kurdes sont confrontées à des évasions massives en provenance des camps de détention. La plupart des fugitifs tentent de rejoindre les milices pro-turques. Europe 1 a pu se rendre sur place. Écoutez cette enquête exceptionnelle de Gwendoline de Bono.
La clôture grillagée qui entoure l'immense Scandal Hall sur des kilomètres n'est pas un obstacle bien difficile à franchir. En à peine 2 mois, 700 femmes djihadistes ont tenté de s'en évader, le plus souvent des Syriennes et des Irakiennes. Une centaine y est parvenue, les autres ont été arrêtées dans ce bout de désert rocailleux où les cellules de l'État islamique sont actives. Un membre de l'administration du camp le reconnaît. Avec l'hiver qui approche, nous nous sentons dépassés.
Nous vivons dans l'inquiétude ici au camp. Les passeurs rôdent en permanence. Les familles de l'État islamique exploitent les éléments comme la pluie ou le brouillard. Lorsqu'elles s'échappent, elles vont près du camp. Les passeurs les attendent à 2 ou 3 km. L'intervention turque a créé le chaos ici. Et les checkpoints ne peuvent pas contrôler tout le monde. Demandez à chaque fois les papiers dans ces périodes de chaos. C'est vraiment facile pour les passeurs de faire sortir ces familles, surtout si elles ont des dollars.
Dans les allées du camp, les fils des écouteurs sortent des niqabs noirs. Les portables sont dans toutes les mains. Les numéros de passeurs s'échangent. Cette Irakienne connaît la grille tarifaire par cœur. Ses voisins ont fait le voyage.
C'était un groupe de 8. Ils ont retrouvé le passeur au niveau des barrières. Certains d'entre eux sont allés en Irak, d'autres en Syrie. Si c'est pour la Syrie, c'est 1 500 $. Si vous voulez aller en Irak, à Erbil ou bien en Turquie, par contre, c'est 2 500 $. Énormément de gens font ça. Les personnes que je connais sont arrivées à Erbil. Elles sont bien, tranquilles, dans une maison.
Une femme, index levé, interrompt la conversation.
L'État islamique restera et nous ferons du camp d'Al-Hol l'un de ses gouvernorats.
Ici, difficile de terminer une interview sans qu'une djihadiste ne vienne proclamer le slogan de l'État islamique. Pour ces femmes, partir du camp, c'est aussi partir en mission. Toutes veulent mener la bataille idéologique dans la région.
Je veux aller avec ma famille en Turquie. La Turquie, c'est mon rêve pour faire en sorte que l'État islamique revienne. Si ce n'est pas possible, j'irai en Irak. On veut que l'État islamique revienne avec l'aide de Dieu parce qu'il nous a rendus fiers.
La semaine dernière, des ressortissantes russes, ouzbèques et syriennes en fuite ont été arrêtées dans un village. Leur destination, la frontière turque, à 2 heures de route. Sur les téléphones confisqués, des messages audio entre passeurs et djihadistes. Si Dieu le veut, dit cette femme, je partirai demain.
Enquête Europe 1, signée Gwendoline de Bono en Syrie. Un séisme en Italie, non loin de Florence, en Toscane, 4,5 degrés sur l'échelle de Richter. Il n'y a pas de victimes, mais des dégâts et des scènes de panique.
Il est midi 18. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La loi anti-gaspille à l'Assemblée et la consigne a manifestement du plomb dans l'aile. A tout de suite. Il est midi 21, la suite de votre journal avec Florence Cohen et Raphaël Duchemin. Le projet de loi anti-gaspillage arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Florence. Il est plein de bonnes intentions, mais aussi plein d'incertitudes.
Et oui, la principale incertitude concerne la consigne. Vous le savez, le fait de rendre ces bouteilles en verre ou en plastique pour les recycler et en touchant au passage quelques centimes d'euros. Eh bien, Virginie Salmen, le gouvernement temporise tellement à ce sujet qu'on ne sait plus vraiment où on en est.
Oui, l'idée de départ, pleine de bon sens, c'était de recycler un maximum de bouteilles d'eau ou de soda en plastique. Actuellement, on est seulement à 57% de recyclage et la France doit atteindre l'objectif d'au moins 90% en 2030 pour éviter de retrouver chaque année 200 millions de bouteilles en plastique, de canettes ou de briques de jus de fruits dans la nature. Mais depuis quelques mois, c'est une guerre de tranchées entre les industriels comme Coca-Cola ou Danone, les maires qui gèrent les déchets et les organismes de recyclage. Aucun de ces trois protagonistes ne veut être le dindon de la farce. Il y a des intérêts financiers en jeu. La matière plastique des bouteilles qui a une valeur marchande non négligeable de l'ordre d'€1,50 le kilo. Résultat, la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique ne devrait être mise en place qu'en 2023. C'est ce que propose le texte qui va être présenté à l'Assemblée cet après-midi avec des expérimentations de cette consigne dans quelques communes. Et d'ici là, le gouvernement a l'intention de laisser faire les maires qui promettent qu'ils peuvent à eux seuls tenir les objectifs de recyclage du plastique. On va mesurer chaque année les performances de la collecte des bouteilles, explique-t-on au ministère de la Transition écologique. Et si ça ne fonctionne pas, alors on basculera vers le dispositif de la consigne.
Et vous nous aiderez à suivre ça. Merci Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe.
Et si la Russie ne participait pas aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, ni d'ailleurs à ceux de Pékin en 2022?
C'est en tout cas la recommandation de l'Agence mondiale antidopage. C'est le Comité international olympique finalement qui aura le dernier mot, Axel May. Mais les autorités sportives considèrent que la Russie ne fait pas assez d'efforts contre le dopage.
Oui, cette fois l'Agence mondiale antidopage estime que les tests remis par la Russie ont été falsifiés. Les experts informatiques de l'agence, l'AMA, ont ainsi découvert que des centaines de contrôles anormaux ont été effacés des données. Les dernières falsifications remontant au mois de janvier. Ce n'est pas la première fois qu'une affaire de dopage secoue la Russie. Souvenez-vous des trafics lors des Jeux de Sotchi. Ce matin, l'AMA a donc décidé de bannir la Russie des Jeux olympiques pendant 4 ans. D'autres compétitions majeures seront concernées, mais pas le prochain championnat d'Europe de football. Le Comité international olympique va, c'est quasi certain, suivre la décision de l'AMA. Alors attention, il y aura tout de même, en principe, des athlètes russes l'été prochain aux Jeux de Tokyo, sous drapeau neutre, comme c'était le cas au dernier Jeux d'hiver en Corée du Sud. Ces sportifs devront prouver qu'ils sont propres. La décision de l'AMA va très certainement être dénoncée par Moscou devant le tribunal arbitral du sport. Moscou, qui ces dernières semaines, en prévision de cette décision, se présentait dans les médias comme une victime, voire carrément comme la cible d'un complot russophobe.
Quelque chose nous dit que l'affaire n'est pas complètement finie. Merci beaucoup Axel May du service des sports d'Europe.
Merci Florence Cohen. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal à 13h.